Donc on prend la page 32b5, et la Gemara nous dit la chose suivante, on est toujours en train de chercher une preuve pour essayer d'expliquer ce que Rava a dit. Que Rava a dit que Tsar Baal Echaim, faire souffrir un animal, c'est assour de la Torah. Donc Rava a expliqué, il a dit que de notre Mishnah, on apprend que Tsar Baal Echaim, c'est assour de la Torah. On a essayé d'amener des preuves contraires. D'accord ? On a essayé d'amener 7 preuves contraires jusqu'à présent, dans lesquelles à chaque fois on a voulu démontrer que Rava se trompe. Et que faire souffrir un animal, c'est pas assour de la Torah, mais à chaque fois, on a désamorcé ces preuves, donc on a prouvé qu'en vérité, il n'y a pas de preuve contre Rava, et que Rava, lorsqu'il a dit que Tsar Baal Echaim c'est de la Torah, ben il peut dire ce qu'il veut, il n'y a personne qui dit contre lui. Donc maintenant, la Gemara va essayer de donner encore une autre preuve, pour essayer de nous démontrer que faire souffrir un animal, c'est pas assour de la Torah. Tashma, viens écoute ce qu'on enseignait dans une braïta. C'est enseigné dans une braïta, sonné chez Amrou. Rappelez le verset qui disait « Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi en train de crouler sous sa charge, tu devras l'aider. » La question qu'on se pose, c'est que le terme « ennemi » est un terme qui est très vaste. Ça veut dire quoi un ennemi ? Sonner chez Amrou. D'accord ? Quand on parle donc d'un ennemi, est-ce que c'est un ennemi juif ou un ennemi goy ? Quand tu me dis « tu aideras même ton ennemi ». Donc il dit ici « Sonner chez Amrou », de quelqu'un on parle ? On parle de « sonner Israël ». On parle d'un ennemi qui est juif. Velo besonné ovet kochavim. Mais on ne parle pas d'un ennemi qui est non-juif. Ça veut dire qu'un non-juif, enfin un non-juif, un idolâtre plutôt, j'ai pas du tout la mitzvah de l'aider. Et la Gemara explique. D'accord ? La Gemara a dit de là, j'ai une preuve a priori, que faire souffrir un animal, c'est pas la sorte de la Torah. Pourquoi ? Parce que i amra tzabalechaim doraita, si tu me dis que faire souffrir un animal, c'est assour de la Torah, malissonné Israël, malissonné Vat Kochavim. Qu'est-ce que ça me change si la personne que je déteste, c'est un juif, d'accord, je préserve, ou la personne que je déteste, c'est un idolâtre, et que je déteste parce qu'il est idolâtre. Qu'est-ce que ça change? Plus que de toute façon, l'animal est en train de souffrir, donc de quel droit les Kochavim peuvent se permettre de me dire, si l'ennemi est un idolâtre, dans ce cas-là, tu fais rien du tout. De quel droit? Donc de là, a priori, on a une preuve que quoi? De là, a priori, on a une preuve que faire souffrir un animal, c'est pas assour de la Torah. C'est une décision rabbinique, et puisque c'est une décision rabbinique, donc les mêmes rabbins qui ont interdit, ils peuvent se permettre de dire, dans ce cas particulier, on te dit qu'il ne faut pas aider. Mais sinon, on ne comprend pas. Donc a priori, c'est une preuve que faire souffrir un animal, c'est assour de la Torah ou c'est assour de Chachamim ? Monsieur Daniel ?
Chachamim.
Parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, la Gemara repousse cette preuve, elle dit, « Mi Savrat, est-ce que tu penses ?» Que quand la Braïta a dit qu'il faut aider uniquement, que j'ai la mitzvah d'aider uniquement un ennemi qui est juif, mais pas un ennemi qui est non-juif, qui est idolâtre. Est-ce que tu penses que, à sonner dit krakaé, est-ce que tu penses que, on parlait, donc d'abord je vais dans les mots, après je vais expliquer, on parlait du sonner du verset, à sonner de matnitin kaé. D'accord? On parlait du sonner, d'accord, de notre Mishnah. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire ici qu'est-ce qu'elle veut dire ici la réponse de la Gemara? Encore une fois, le problème qu'on a, c'est que nous, on a fait appel à une braïta. Le problème qu'on a fait appel à une braïta, on va relire la braïta qu'on vient de commencer. Qu'est-ce qu'on a dit ? Sonner chez Amrou. Le sonner qu'ils ont dit. Qui ils ont dit ? C'est qui ils ? D'accord ? Sonner chez Amrou. Le sonner qu'ils ont dit. D'accord ? Vous avez ?
Ils, c'est au pluriel.
C'est qui ils ? De qui on parle quand on dit ils ?
Des gens.
D'accord ? Ils. Alors nous, on a compris qu'on fait appel à quel verset ? On fait appel au verset que vous pourrez retrouver à la droite de la page.
Dans la Torah.
D'accord ? Dans la Torah, Torah Orachalem. D'accord ? À la droite de la page. Pasouk numéro 1. Kitir e chamor sonahara rovet stachat masao. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi en train de crouler sous sa charge. D'accord ? Donc on a pensé que quand la vérité a dit le sonnet qu'ils ont dit, c'est qui il ? Ben c'est le Pasouk. C'est comme ça qu'on a compris.
Bon,
c'est pour ça qu'on
parle pas au pluriel si c'est Pasouk.
Très bien. Donc c'est pour ça qu'on... Nous, on a compris à la base, on a compris que la Braïta, quand elle faisait appel, quand elle essayait d'expliquer le sonnet, de quel sonnet elle parlait du sonnet qu'on a retrouvé dans le Pasouk. Donc c'est pour ça qu'on a dit un problème. Pourquoi, si c'est un ennemi juif, je dois l'aider, mais un ennemi non juif, je ne dois pas l'aider. Pourtant, l'animal, il souffre quand même. Donc de là, on a voulu prouver que c'est des Rabanan. Je ne te dis pas du tout. Quand la Braïta a dit qu'il y a une différence entre le sonnet juif et le sonnet non juif, elle ne parlait pas du Pasouk. Parce que pour le Pasouk, c'est évident que j'ai l'obligation d'aider. Peu importe l'ennemi, que ce soit un ennemi juif ou un ennemi goy. J'ai l'obligation d'aider, puisque moi je vais te dire que, pourquoi j'ai l'obligation d'aider? Puisque l'animal, il n'a pas d'appartenance. Les hommes ont une appartenance, mais les animaux n'ont pas d'appartenance.
Non, c'est doré.
D'accord. Donc on peut être soit un animal, soit un homme. Et les, moi, mais les animaux n'ont pas d'appartenance et les hommes ont une appartenance. D'accord. Oui, ça, je... Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Explique comme ça. Dit, donc, qu'est-ce que j'aurais pu penser? J'aurais pu penser que. Est-ce que tu crois que le sonnet. On parle du sonnet du verset? Pas du tout. C'est quoi le sonnet du verset? C'est le verset que je vais vous montrer. Pas du tout, on parle pas de ça. De quoi on parle? On parle du sonnet de la Mishnah. C'est quoi le sonnet de la Mishnah? C'est la braïta précédente. D'accord? Alors, c'est quoi la braïta précédente? La braïta précédente, c'est quand on a parlé de Oev Lifrok, d'accord? Vesonet Liton. Alors. Si vous mettez la référence un petit peu plus haut. C'est une braïta qu'on a pris un peu plus haut. Voilà, juste en haut. C'est juste avant. Reprenez la page d'avant encore. Restez sur la page 32B5. Et voilà. Prenez la colonne de droite. D'accord? Ce qu'on avait étudié la semaine dernière.
32B5 en haut à droite.
32B5 en haut à droite. Qu'est-ce qu'on a dit? Viens apprendre. Oev Lifrok, Vesoné Liton. On avait dit que si. D'accord? Si Oev Lifrok veut sonner l'itron, que s'il y a mon ami qui a son animal, si je dois aider mon ami à charger son animal, et je dois aider, non, pardon, à décharger son animal, et je dois aider mon ennemi à charger, qu'est-ce qu'on a dit? Qui c'est qui passe avant? C'est l'ennemi. Pourquoi c'est l'ennemi? On a dit pour casser les Yetzirah. Très bien, je vois qu'il y en a que ça a marqué. Bon. Alors maintenant, elle te dit, la Braïta, elle te dit, quand on parlait du sonnet, quand on t'a expliqué que le sonnet, c'est un sonnet qui est juif et pas non juif, de quel sonnet on parlait? On parlait du sonnet qu'on a vu dans cette braïta. Que dans cette braïta, on a parlé d'un sonnet. On a dit que l'animal du sonnet passe avant. Et c'est là qu'on t'a dit que de quel sonnet on parle. On parle d'un sonnet qui est juif, mais pas d'un sonnet qui est non juif. D'accord? Là, ça se comprend. Pourquoi là, ça se tient? Puisque, rappelez-vous, c'était quoi le cas? Mon ami, je dois aider mon ami a besoin que je l'aide à décharger son animal. Et mon ennemi a besoin que je l'aide à charger son animal. Donc, est-ce qu'il y a une souffrance de l'animal qui est impliquée chez l'ennemi ici?
Non.
Il n'y a pas de souffrance de l'ennemi, je répète.
Oui.
Mon ami, il est pas d'accord, chargé. Mon ami, il a son animal qui est en train de crouler sous sa charge. Donc, je dois l'aider à décharger. Mon ennemi, je dois l'aider à charger. On est d'accord? Donc, est-ce que dans le cas de l'ennemi ici, il y a une souffrance de l'animal qui est impliquée?
Non.
Donc là, les rachamim peuvent se permettre de dire que l'ennemi qu'on t'a dit qui passe avant l'ami pour casser ton yetzer hara, c'est uniquement si c'est un juif. Mais si c'est un non-juif, non. Pourquoi c'est un non-juif? Non. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas de souffrance de l'animal. Donc, dans ce cas-là, tu feras passer ton ami avant. Mais le verset.
Dans le cas contraire.
Le second. Ça change. Ça veut dire, c'est ce qu'on va te dire. En vérité, la souffrance animale, elle passe toujours avant. Mm. Mais pourquoi on t'a fait une différence entre l'ennemi juif et l'ennemi non juif? C'était uniquement. D'accord? C'était uniquement
dans
pourquoi? C'était uniquement dans la braïta dans laquelle le sonnet, on devait l'aider à charger l'animal. Donc là, il n'y a pas de souffrance animale. Il y a une souffrance du propriétaire. Et là, on fait la différence entre si c'est un non-juif ou si c'est un juif. Encore une fois, quand la Braïta me dit « sonner chez Amrou », le sonner qu'ils ont dit, c'est qui ils ont dit. C'est pas le Passouk. C'est qui ils ont dit, c'est la Braïta. Alors peut-être oui, peut-être non. On n'a pas de preuve. La Braïta qui a dit « sonner chez Amrou »,
c'est la Torah.
Ils ont dit. On ne sait pas qui a dit. Peut-être c'est la Torah qui a dit. On ne sait pas. Nous, on a une Braïta, on a une trace, on sait pas ce que c'est. Alors, il te dit. Tu dis puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Donc Rava te dit « moi, t'as pas de preuve contre moi. Tu voulais m'amener une preuve que faire souffrir un animal, c'est pas sûr de la Torah. » Je te réponds, je te dis non, pas du tout. La Braïta parlé carrément d'autre chose, rien à voir avec ce que tu as dit. Compris?
C'est un cas exceptionnel.
C'est pas seulement un cas exceptionnel, ça parlait d'autre chose. C'était une Braïta qui venait expliquer la Braïta précédente. Ça parlait d'un cas où il n'y a pas de souffrance animale et que c'était pour casser le Yitzhara. Et quand tu dis que briser ton Yitzhara, c'est uniquement si c'est pour un juif. D'accord? Donc on parle carrément d'autre chose, on parle pas du tout de la souffrance animale. Très bien. Donc où on en est? Est-ce que faire souffrir un animal, on a une preuve si faire souffrir un animal, ça sort de la Torah ou pas? Hein? Est-ce que faire souffrir un animal, ça sort de la Torah ou pas? Toujours pas. Très bien. Donc, on continue. Tashma, viens, écoute. On va essayer d'amener encore une autre preuve que faire souffrir un animal n'est pas à sourd de... Faire souffrir un animal n'est pas à sourd de... La Torah. C'est écrit dans le verset... Donc là, on a tourné la page. Prenez... Pourquoi vous ne suivez pas? C'est 33, hein. C'est écrit comme ça. Le verset, il nous a dit, on va essayer encore une autre preuve. C'est écrit, lorsque tu verras l'âne de ton... Donc, qu'est-ce qu'il a dit le verset? Lorsque tu verras l'âne de ton... Qu'est-ce que dit le verset que je viens de dire? Qui tire Hamor, sonacha, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, si on se réveille.
Sonner, c'est ennemi.
Daniel, lorsque tu verras l'âne de ton.
De ton ennemi.
De ton ennemi, revêt tachat masao. En train de crouler sous sa charge. Sous sa charge. Très bien.
C'est toi qui dis crouler.
Attendez.
Alors, son chargement, c'est
je te mets une seconde. On va expliquer. Les Chachamim m'ont appris de ce verset-là plusieurs drachotes. Une des drachotes qu'ils ont appris est la suivante. C'est écrit comme ça. Rovet velo ravtsan. Il dit, c'est pas écrit lorsque tu verras l'animal de ton ennemi crouleur sous sa charge. C'est écrit lorsque tu verras l'âne de ton ennemi en train de crouler sous sa charge. Ça veut dire que c'est un cas exceptionnel. C'est pas une voiture qui tombe toujours en panne. C'est un cas exceptionnel. Que l'âne de ton ennemi, normalement, il est en forme, et là, il y a eu un cas de force majeure, il a croulé sous sa charge. Donc, qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? Rovet, velo ravtsan. Premièrement, ils ont appris que quand la Torah a dit en train de crouler, ça veut dire que c'est exceptionnel qu'il a croulé. Mais si c'est une habitude, qu'il a toujours l'habitude de crouler sous sa charge, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de l'aider. C'est la première chose que les Chachamim ont appris. Une autre drachia que les Chachamim ont appris. Rovet, velo omed. D'accord? Ils ont dit que, donc, que le verset, il dit bien en train de crouler sous sa charge. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle, on parle bien d'un animal ici qui est par terre. Mais si l'animal est debout, même si on voit apparemment qu'il est en train de souffrir et que c'est trop long pour lui, j'ai pas l'obligation de l'aider. Puisque c'est écrit Rovetz. C'est pas fini. D'accord? Troisième chose, Tachat Masao. D'accord? Tachat Masao, ça veut dire quoi? Tachat Masao, ça veut dire sous sa charge. En train de crouler sous sa charge. Ça veut dire quoi sous sa charge? Ça veut dire, explique ici la Gemara, vélo, donc tarat masao, pardon, ça veut dire que l'âne se trouve ici avec sa charge dessus, vélo meforak. Mais on ne parle pas d'un cas où la charge est déjà enlevée, qu'elle est posée à côté. On parle bien d'un cas où la charge est sur l'animal et qui croule sous sa charge. C'est pour ça que je vous ai dit crouler sous sa charge. Parce que revêt en hébreu, ça peut se traduire par accroupi. Alors, il peut être accroupi par terre et la charge est à côté. C'est possible. Pourquoi la Torah me dit tarat masao? Pour te dire clairement qu'il croule sous sa charge.
Et sa charge.
D'accord.
Ça veut dire qu'une autre charge qui n'est
pas habituelle.
Attendez,
je n'ai pas fini. Alors, ça, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Ensuite, Masao. On a dit qu'il croule sous sa charge. C'est-à-dire quoi, sa charge? Masao, Sheyachol, La Modbo. C'est une charge qu'il peut tenir. Ça veut dire, par exemple, il a le poids total autorisé qui est de temps, corde, de 200 kg. Et c'est sa charge, il a porté 200 kg. Mais s'il porte 300 kg alors que normalement, on sait qu'il peut porter 200 kg, je n'ai pas besoin de l'aider. Donc, on a appris quatre choses. D'accord? C'est quoi les quatre choses qu'on a appris? Premièrement, crouler. Ça veut dire que c'est exceptionnel. Quand quelqu'un dit que c'est écroulé, c'est pas quelqu'un qui est toujours par terre. C'est que bon, normalement, il est debout, il s'est écroulé, il est par terre. Trop long pour lui. Première chose qu'on a appris. Deuxième chose qu'on a appris, c'est quoi? Allez, messieurs, on a appris quatre choses de ce passouk-là.
Vous êtes debout?
Non. Première chose qu'on a appris.
Avoir une charge habituelle.
Non, ça c'est le quatrième, ça. Première chose qu'on a appris, revêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de crouler. Ça veut dire que c'est exceptionnel. C'est pas un cas rare. C'est pas un cas, je veux dire, habituel. C'est un cas rare. C'est pas normal. D'accord?
Comme le marbre.
Ça, c'est donc un premier point. Deuxième point qu'on a appris, c'est que crouler, ça veut dire qu'il est accroupi par terre et qu'il n'est pas debout. Troisième point qu'on a appris, c'est quoi? C'est que. C'est quoi le troisième point qu'on a appris?
Que la charge est sur lui. C'est pas à côté.
C'est quoi le troisième point qu'on a appris? Regardez.
Il y a une histoire de debout.
Non, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est quoi?
Sans chargement.
La
charge doit être à côté. Sur lui
et
pas à côté.
Non, ça veut dire quoi? De quel mot on a appris ça?
Misao. Tachat,
non. Bah, qui était déjà chargé dans ce cas-là.
On a trois mots ici. Et de trois mots, on doit apprendre quatre choses. On va pas faire des mathématiques, mais de trois mots, on doit apprendre quatre choses. Les trois mots, c'est Rovet, Tachat, Masao. Crouler sous sa charge. C'est trois mots. Rovet, Tachat, Masao. Du premier mot qui est Rovet, qu'on dit en train de crouler, on a appris deux choses. Premièrement, crouler, ça veut dire que c'est exceptionnel. Quelqu'un qui s'est écroulé, c'est que c'est exceptionnel. S'il est toujours par terre, on ne dit pas qu'il s'est écroulé sous sa charge. On dit qu'il est par terre, c'est tout. Deuxième chose qu'on a appris du mot revêt, du mot qui est en train de crouler, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que s'il est écroulé, c'est-à-dire qu'il est par terre, qu'il n'est pas debout.
Et que c'est chargé sur lui.
D'accord? C'est-à-dire que s'il est debout en train de marcher, même si c'est lourd, je n'ai pas l'obligation de l'aider. Maintenant, du mot tachat, en train de crouler sous sa charge. Qu'est-ce qu'on a pris du mot sous sa charge? Ça veut dire quoi?
La charge est sur lui encore.
Ça veut dire que, non, mais attends, on a pris ça pas du mot sa charge, du mot sous, tachat. Que puisqu'on le dit sous sa charge, ça veut dire que il est en dessous de sa charge et que la charge n'est pas posée à côté de lui. D'accord? Et du mot masao, sa charge, qu'est-ce qu'on a appris? Que ça doit être, ça veut dire quoi, sa charge?
C'est habituel.
Pourquoi tu dis pas crouler en train de crouler sous une charge? Pourquoi tu dis crouler sous sa charge? Ça veut dire crouler sous sa charge, d'accord? Maximale, autorisée. Très bien. Maintenant, la Gemara pose la question suivante. Dis, ve'i amrat, si tu me dis que tsar bal echaim d'oraita, si tu me dis que faire souffrir un animal, ça sort de la Torah, mali rovetz, mali raftan, ou mali omen.
Oui.
Qu'est-ce que ça me change si l'animal.
C'est sa charge habituelle ou pas?
Qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce que ça me change si l'animal est rovetz? Ça veut dire que qu'est-ce que ça me change si l'animal est en train de crouler? Est en train de crouler, donc s'écroule exceptionnellement, ou s'il s'écroule toujours, de manière habituelle, ou maliomède, et qu'est-ce que ça me change s'il est debout? Qu'est-ce que ça change? De toutes les façons, l'animal, il souffre. De quel droit tu fais une différence? De quel droit la braïta peut faire une différence? Vous comprenez la question?
Oui.
C'est une question qui est très logique, je ne comprends pas. De quel droit on peut venir ici et faire une différence? De dire que ça dépend. S'il croule d'habitude ou il ne croule pas d'habitude. Mais je ne comprends pas. Ça, c'est de la faute de qui s'il croule? C'est de la faute du propriétaire ou de la faute de l'animal?
Oui.
Je répète.
Ça peut être l'un comme l'autre.
Tu m'as dit, il faut qu'il croule sous sa charge exceptionnellement et pas de manière habituelle. Et tu m'as dit, il faut qu'il soit assis, enfin, écroulé, pas debout. Maintenant, je vous pose la question. Je vais reprendre deux cas, les deux cas qu'on vient de dire ici. Un animal qui s'écroule toujours sous sa charge, c'est de la faute de qui? De la faute de l'animal ou de la faute du propriétaire?
Propriétaire.
Toujours, hein. C'est sûr que c'est le propriétaire. Peut-être c'est un animal qui n'est pas fait pour porter. On n'a qu'à le vendre, il n'a qu'à faire l'autre chose.
Alors c'est de la faute de l'animal.
Non?
Vieille carne.
Bah, dans ce cas-là,
sert à rien.
Dans ce cas-là, on dit quand un animal est plus productif, on lui fait la charité, on prend sa viande et c'est fini.
C'est un âne.
D'accord? Alors le vend un goy.
Ah bon,
on peut pas. Tu vois bien qu'il marche pas. Il s'écroule à chaque fois. C'est de la faute de qui? Il est payé pour rien l'animal.
Celui qui me l'a vendu.
Il est manipulé l'animal ici. D'accord? Très bien. Donc, c'est la question. Qu'est-ce que ça me change s'il est debout, s'il a l'habitude de s'écrouler ou pas mes affaires? Est-ce qu'il souffre ou il souffre pas? Imaginez-vous quelqu'un, il a des malheurs qui lui tombent sur la tête, du préserve. On dit, ah, comme tu as des malheurs qui tombent souvent sur la tête, toi. Donc je t'aide pas. Quel rapport? Il est pour rien, qu'est-ce qu'il veut? Il arrête de souffrir, maintenant il faut l'aider. Donc de là, a priori, on aurait une preuve que faire souffrir la souffrance d'un animal, c'est pas sur la Torah. Pas sur la Torah, c'est pour ça que c'est les Rachamim. Les Rachamim peuvent se permettre de dire, c'est nous qui avons imposé de faire attention à la souffrance animale, mais dans certains cas, des cas extrêmes comme ça, il n'arrête pas de tomber. C'est la faute du propriétaire, on dit, écoute, je ne vais pas exagérer non plus, on n'en compte. Sinon, on n'a pas de raison. Comment on expliquerait la différence entre si c'est sa charge ou pas? Répond la Gemara. Hein. Elle dit, non. On ne peut pas prouver de cette preuve la vie de Rabbanan. Pourquoi? Hein? Parce que Amani, je veux te dire que cette braïta appartient à qui? Ah oui, c'est le Joker, là. Amani, cette braïta appartient à qui? D'accord? Rabbi Yosef Glili. Elle appartient à Rabbi Yosef Glili. De Amar, Tsar Balechaim de Rabbanan. Qui a dit que Tsar Balechaim, faire souffrir un animal, c'est à sourd de Rabbanan. Alors on dit, attends, deux secondes.
Parti dans la SPA.
C'est facile de mettre un joker comme ça, mais rappelez-vous ce qu'on a fait la semaine dernière. Quand on a amené ce joker, il faut m'amener une preuve pour m'expliquer pourquoi tu as amené ce joker. C'est-à-dire, il faut que tu me montres que la braïta me laisse penser que c'est la vie de Rabbi Yosef Glili. Il faut que tu me trouves au moins un indice dans la braïta qui me montre que c'est Rabbi Yosef Glili qui parle, parce que sinon c'est trop facile. Je dis Rabbi Yosef Glili, c'est fini, ça y est, on est quitte. Vous rappelez la semaine dernière, quand on avait dit Rabbi Yosef Glili, juste après la Gemara a dit, j'ai un indice qui me prouve que c'est Rabbi Yosef Glili. Parce que sinon ça marche pas, sinon c'est trop facile, sinon on prend la Gemara. C'est trop facile, Rabbi Yosef Glili. Non, prouve-moi que c'est Rabbi Yosef Glili. Alors la Gemara a dit, Achinami Mistabra. C'est logique ce que je vais te dire ici, d'accord? Ça veut dire que j'ai un indice dans la braïta. Qui va me pousser à dire, qui m'a poussé à dire que c'est Rabbi Yosef Glili. C'est quoi l'indice? Des katane tachat masao shechol amodbo. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans la braïta? Le quatrième élément qu'on a enseigné dans la braïta, c'est qu'est-ce qu'on a enseigné? Tachat masao sous sa charge. C'est quoi sa charge? Ça veut dire que c'est une charge qui peut. On a dit c'est une charge qui peut
supporter
habituellement. Eh bien, man shamatle deitla isvar. Mais qui c'est qui nous a appris cet enseignement? C'est pas nouveau ça pour nous. On l'a déjà appris cet enseignement. Qui nous l'a appris? Rabbi Yosef Glili. Reprenez la Mishnah. D'accord, reprenez la Mishnah.
Oui.
Reprenez la Mishnah, c'était 32 à quelque chose. Je ne sais pas, c'était 32, peut-être à 2 chez vous. 32 à A. La Mishnah.
Ici,
à Moudalef. Ouais, attendez une seconde. 32, 32 à 2, je crois, ou à 2 ou à 3. Ah non, c'est même pas. C'est à 4. Ah ouais, c'est long celui-là. Voilà. Prenez 32 à 4. Ici, on avait l'avis de. Le dernier avis de Rabbi Yossi Agbili. Non. Ah oui, non, c'est bon. Non, c'était 32 à 2. Alors, 32 à 2, vous prenez la Mishnah. Ici, qu'est-ce qu'on avait dit ? Dernier paragraphe de la Mishnah, ici vous prenez. Dernier paragraphe de la Mishnah. Quand vous prenez la cinquième ligne, Rabbi Yossi Agbili Omer, Rabbi Yossi Agbili dit Im aya alav yater al masao, si sur l'animal se trouvait plus que sa charge. En zakuklo, j'ai pas besoin de m'en occuper. Chez Neymar, comme c'est écrit, Tachat Masao, sous sa charge, Masao, chez Achol la Modbo. Une charge de laquelle il peut tenir. C'est exactement les mêmes mots qu'on a vu dans la Braïta. Donc, la Gemara te dit, j'ai un indice qui me montre que cette Braïta, c'est la vie de Rabbi Yossi Agbili. C'est quoi mon indice? C'est que c'est exactement les mêmes mots que la Mishnah. C'est les mêmes. Un indice quand même.
Je vois bien, mais il y avait écrit il au pluriel.
Où c'est?
On l'avait dit il au pluriel.
Où il avait dit il au pluriel?
Dans le texte. Il y avait écrit que c'était ils ont dit. Pas il a été dit. Alors il est plusieurs, Rabbi.
Mais non, on est déjà dans une autre braïta là. On a passé une épreuve, c'est la précision déjà.
Mais moi je reviens là-dessus, cette braïta là.
Mais la braïta on l'a oublié, c'est fini, c'est pas Rabbi Sagli. La braïta on explique qu'elle parle d'autre chose. On est déjà dans le cas suivant là. Vous avez fait. Votre esprit a dû divaguer entre temps, ouais.
Je crois que j'ai chanté. Mais parce que c'est pas la même Braïta, et il serait dit.
Non, c'est pas la même Braïta,
on aurait dit, il a dit.
Mais c'est deux choses différentes.
Bon, d'accord.
On redescendait sur Terre.
Bon. J'ai fait une overdose de.
Vous avez fait une overdose de gâteau hier?
Non, justement, j'avais pas faim du tout.
C'est très bon. Bon.
Non, c'est ma femme, elle a ramassé, parce qu'ici, quelqu'un lui a dit, on va tout jeter.
Ok, on y va. Donc,
on va tout jeter. Moi, j'aurais tout
beaucoup. Manchamatle de Hitler, il se verra. Rabbi Yossi Agbili. Donc, je reprends maintenant notre Gemara. Reprenez la Gemara. D'accord. Vous prenez la page 33 à 1. Et la Gemara, donc, est en train de prouver. Elle te dit, qu'est-ce qui m'a laissé, de quel droit je peux te dire que cette Mishnah sur la vie de Rabbi Yossi Agbili. C'est pas simplement une hypothèse que j'avance. J'ai un indice qui me montre ça. C'est quoi l'indice? C'est que dans la Braïta, l'enseignement de la Braïta, qu'on a dit que Tachat Masao, sous sa charge, ça veut dire une charge que l'animal peut porter. Qui c'est qui a dit les mêmes mots, exactement les mêmes mots? C'est Rabbi Yossi Agbili. Donc, puis c'est Rabbi Yossi Agbili. J'ai un indice qui me montre que cette Braïta a été dite par Rabbi Yossi Agbili. Donc, Rabbi Yossi Agbili, on sait déjà que lui, il dit que faire souffrir un animal, c'est
la
sorte de Khamim.
On est revenu au.
Donc, on sait déjà. Donc, puisqu'on sait déjà. Donc, encore une fois, Rava ne s'est pas mêlé avec Rabbi Yossi Agbili. Rava a dit, moi, je pense que Khamim pense que faire souffrir un animal, c'est la sorte de la Torah. Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yossi Agbili, on sait, il nous a dit clairement qu'il pense le contraire. Cette braïta suit la vie de Rabbi Yossi Agbili. D'où je sais, parce que dans cette braïta, il y a un indice, c'est plus qu'un indice, ça, c'est un panneau, ça. D'accord? Qui me dit clairement que, apparemment, qui me fait comprendre clairement que cette braïta suit la vie de Rabbi Yossi Agbili. C'est les mêmes mots que la Mishnah.
Et alors?
D'accord?
Il y a 36 mots pour dire la même chose.
J'ai pas compris.
Il y a pas 36 mots pour dire la même chose.
Ouais, mais là, c'est quand même le même mot.
D'accord.
Donc tu as raison, c'est pas une preuve, c'est un indice. C'est-à-dire qu'au Bet Hamidrash, celui qui a répondu, qui a dit c'est celui de Rabbi Yossi Agbili, il ne peut pas dire simplement celui de Rabbi Yossi Agbili, il faut qu'il ait au moins un indice. L'indice, il a trouvé. C'est un très bon indice. C'est les mêmes mots.
ADN.
C'est pas une preuve.
D'accord. Non, c'est jamais une preuve. D'accord. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a eu aucune preuve. Voilà. Tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est à chaque fois, on a repoussé des hypothèses. Mais bon, on les a bien repoussées quand même. Donc, Shema Mina. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Oumimatse Mokmatla Rabbi Yossi Agbili. Est-ce que tu penses que vraiment cette braïta peut suivre la vie de Rabbi Yossi Agbili? Ah, Katane Sefa, mais voilà, je vais t'apprendre la fin de cette braïta-là. Qu'est-ce qu'on a appris à la fin de cette braïta? On en s'est écrit à la fin de cette braïta. Tachat Masao Velo Meforak. Qu'est-ce qu'on a appris? On a dit sous sa charge. Ça veut dire quoi sous sa charge? Sous sa charge, ça veut dire mais à condition qu'il ne soit pas déchargé. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Maïlo Meforak. D'accord, mais je comprends pas. C'est quoi cette histoire?
Oui,
d'accord, j'attendais que vous posiez la question tout à l'heure.
Non, parce que certainement qu'il ne souffre pas lorsqu'il est déchargé.
Exactement.
Peut-être c'est un animal qui a l'habitude de se coucher pour s'économiser.
Je comprends pas. La question est très simple. Si la charge n'est pas sur l'animal, donc dans ce cas-là, l'obligation n'est plus de décharger, l'obligation est de charger. Dans ce cas-là, il y a un autre passouk pour ça. Donc on peut pas parler de ça. C'est pas, on peut pas dire que ça parle de ça. J'attendais que vous posiez la question tout à l'heure.
Bon. Oui, mais je suis retenu.
On va pas voir ça comme ça.
On voulait pas ridiculiser.
Oui, oui.
Est-ce que vous avez compris la question, moi ?
Non, mais je peux non. Il renvoie la sauce.
Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Rovet tachat masao ». Il a dit « Un animal qui croule sous sa charge ». Qu'est-ce qu'il a expliqué ? Il a dit que du mot « tachat », du mot « sous sa charge », on comprend que quoi ? Ça veut dire qu'il est en dessous et que c'est pas à côté. Je ne comprends pas. Si la charge est à côté, il n'y a rien à décharger. Donc, c'est plus chargé qu'il faut maintenant. C'est plus déchargé, c'est rechargé. Et ça, il y a un autre pasouk pour ça. Donc, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette braïta ? Donc, ma et l'homme éphorak, qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis que l'homme éphorak, que tu me dis à condition qu'il ne soit pas déchargé ? Mais, et l'imal, l'homme éphorak, là, si tu me dis qu'on parle vraiment d'un cas, que l'homme éphorak, ça veut dire que le l'imal, l'homme éphorak, là, si tu me dis qu'on parle effectivement d'un cas où il n'est pas du tout déchargé, et que s'il est déchargé, ben il faut l'aider, mais c'est évident. Active, voilà, c'est écrit, akem takimimo. D'accord ? Seconde. Il y a un autre verset qui me dit quoi ? Qu'est-ce qui me dit le verset ? Le verset il me dit lorsque tu n'auras pas le droit de voir l'âne de ton ami ou son taureau en train de donc être par terre et les ignorer, tu devras l'aider à se relever. Donc c'est carrément autre chose. Et là seulement pshita lo meforak bichinam et la besacha. Donc c'est évident que la différence qu'on a fait ici dans la Mishnah, dans la Braïta, pardon. De dire qu'il y a une différence si l'animal est par terre ou l'animal n'est pas par terre. Est-ce que j'ai l'obligation de l'aider à décharger ou pas décharger ? De quoi on parle ? De quoi on parle ici ? On parle ici, la différence va être, est-ce que je peux le faire avec rémunération ou sans rémunération ? Que si l'animal, que si la charge est déjà déchargée, dans ce cas-là, j'ai pas l'obligation de l'aider gratuitement et je peux demander une rémunération ? Mais si la charge n'est pas encore déchargée, que l'animal est en train de souffrir, dans ce cas-là, j'ai l'obligation de l'aider. Man shamat l'aide itle aizvara. Qui c'est qui pense cette logique-là? Qui c'est qui pense cette zvara? Que on n'a pas l'obligation d'aider. Qui c'est qui pense qu'il y a cette différence-là? Que décharger, là, on l'a déjà appris il y a trois semaines.
C'est sûr qu'il était.
D'accord? Qui c'est qui pense que décharger, on doit le faire gratuitement, mais recharger, on peut le faire en demandant une rémunération? Qui c'est qui pense ça? Rabbanan. Comme la Gemara dit plus haut, d'accord, au début de la page 32 à 2, pardon, c'est là-bas la Gemara dit cette chose-là. Et c'est qui c'est qui a dit ça ? C'est Rahamim. Donc ça veut dire que cette braïta, toi tu m'as montré un indice pour me dire que cette braïta suit l'avis de Rabbi Yossi Haglili. Mais moi je t'amène une preuve qu'elle ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Yossi Haglili. Pourquoi elle ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Yossi Haglili ? Puisque dans cette braïta, on a clairement suivi un autre cas. On a clairement dit que pour aider à recharger, on n'a pas besoin de demander. On peut demander une rémunération. Qui c'est qui pense comme ça ? On l'avait appris. Moi, si vous voulez, dans la Khazara, vous regarderez plus haut. C'est Chachamim. Donc, cette vraie thèse sur Chachamim ou Rabbi Yossi Haglili ?
Chachamim.
Qu'est-ce qu'on a ici ?
Chachamim.
Alors ? Je répète. On a eu un indice dans la Braïta. Du fait que dans la Braïta, on a dit exactement les mêmes mots que dans la Mishnah, donc on a eu un indice qui nous a démontré a priori que la braïta suit l'avis de Rabbi Yossi Haglili. Le problème, c'est qu'à part cet indice, M. Yaakov, qu'est-ce qu'on a dans la braïta ?
Sous sa charge.
Un SMS. Qu'est-ce qu'on a ?
Sous sa charge.
Qu'est-ce qu'on a dans la braïta à part ça ? À part l'indice qui nous montre que c'est Rabbi Yossi Haglili, on a a priori une preuve.
On a cru que c'était.
On a cru, oui, mais OK, il est toujours là l'indice, il n'y a pas de problème, les mots sont toujours là.
Oui, mais maintenant, on penche sur.
Comment on dit les mots ? Les mots s'envolent, comment on dit ? Les mots s'envolent et les écrits restent.
Bon. La parole s'en va.
Bon, avec les écrits sont là, il n'y a pas de problème. OK, l'indice me montre qu'on Rabbi Yossi Haglili. OK, d'accord. Mais on a ici, a priori, une autre partie de la Braïta qui nous a dit clairement, comme la vie de Chachamim, cette différence, cette distinction de dire que rémunération, je peux demander une rémunération pour aider à charger, mais je dois faire de manière bénévole le déchargement. C'est Chachamim qui font cette différence. Donc la Braïta est sur Chachamim ou Rabbi Yossi Haglili ?
Chachamim.
C'est pas ?
Oui, peut-être.
Non, c'est encore. C'est partagé d'un côté.
Lui, il te dit, toi, tu avais un indice que ça suivait la vie de Rabbi Yossi Haglili, mais moi, j'ai une preuve que ça suivait la vie de Chachamim.
En tout cas, c'est deux
choses. Parce que bon, ce que tu m'as dit, c'était un indice. Mais moi,
ce que j'ai dit tout à l'heure.
Moi, j'ai une preuve. Donc, indice contre preuve, qu'est-ce qu'on prend ?
La preuve.
Hein ? La preuve ?
On prend quoi, Daniel ?
La preuve.
C'est Daniel, qu'est-ce qui se passe ?
La preuve de quoi ?
Non, j'ai deux personnes qui cherchent à me joindre, alors c'est ça qui me
perturbe.
Bah, sortez dehors 10 minutes, répondez leur, revenez.
Non, mais même, c'est.
Ah.
C'est, je sais pas si je dois. Si je l'appelle, il faut que je parte alors.
Ouais. D'accord.
Et si j'appelle pas. Bon.
Tu fais virer. Tu vas éteindre ton téléphone.
Tu t'es dégagé.
Non, mais c'est mon père, moi, comment. Enfin. Alors, j'essaye, mais.
Alors, dit, l'Agmar, elle répond, elle dit. Dit, Léolam, Rabbi Saglili. Béteïna, Savarlek et Rabbanan. En vérité, cette braïta, sur la vie de qui? Sur la vie de Rabbi Saglili? Parce qu'il y a un indice. Et l'indice, on pense qu'il est bon. Mais seulement.
C'est quoi la preuve? Je comprends pas ta preuve.
De quoi?
Il y a une preuve que c'est.
Ben, la preuve, c'est que. C'est que dans la page, au début de la page 32.
C'est un bon conseil. Là.
Tu m'as dit, on a un indice que c'est Rabbi Saglili parce que c'est. C'est les mêmes, il emploie les mêmes mots.
Oui.
Maintenant, tu me dis, il y a
une preuve que c'est Rachamim.
Que c'est pas de lui, que c'est des rares.
Oui.
Ah, c'est quoi la preuve?
Ben, la preuve, c'est très simple. C'est que, on a fait la distinction dans la Braïta entre le chargement et le déchargement.
Oui.
On a dit, le déchargement doit être gratuit et le chargement peut être payant. Rémunéré. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui pense comme ça? On a déjà vu cette marloquette, c'est nouveau ça. C'est Rachamim.
Oui.
Donc cette braïta sur la vie de Rachamim, c'est sur la vie de Rachamim, elle ne peut pas sur la vie de Rabbi Yossi Aglili,
oui.
Sans Marloquette.
Oui.
C'est-à-dire, je vais expliquer ce que je veux dire ici.
Oui, mais peut-être
que c'est pas le même sujet.
Sur un point et pas sur un.
Voilà, bien. Suivez les deux. Bien. Hein. Bonne question. Il y en a un qui part du chargement, l'autre du déchargement.
C'est la réponse d'Agmara. Très bien. Rabbanan et Rabbi Yossi Aglili sont Marloquette sur deux points.
Pardon. Est-ce que faire souffrir l'animal.
Premièrement, est-ce que faire souffrir l'animal, ça sort de la Torah ou pas?
Oui.
Deuxièmement, est-ce qu'on peut demander une rémunération pour le chargement?
Pour le chargement.
Donc nous, l'Agmara pose la question et dit, si j'ai une preuve que. La braïta suit la vie de Rabbi Yossi Aglili, que je peux demander une rémunération pour le.
Chargement.
La braïta suit la vie de Chachamim, qui dit que je peux demander une rémunération pour le chargement. Donc, a priori, toute la braïta suit la vie de Rabbi Yossi Aglili, de Chachamim. Mm. Donc, la braïta suit pas la vie de Rabbi Yossi Aglili. Mm. Donc, je reviens à ma preuve. Puisque cette braïta m'a dit que je peux faire souffrir l'animal, enfin, que c'est pas la source de la Torah. Donc, c'est une preuve que Rabbanan pense comme ça. Je dis non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La réponse que vous venez de me dire. Que puisque c'est deux marloquettes distinctes, d'accord.
C'est pas le même sujet.
C'est pas du tout le même sujet. Oui, mais attention, mais c'est.
Ça se ressent, bon, c'est pas. C'est normal.
C'est le même sujet.
Mmh.
Ah oui, parce que ça a été fait autour du même cas. Autour de la souffrance de l'animal, du cas du déchargement. Ça peut pas dire que c'est pas le même sujet.
C'est le même sujet, mais c'est non, pas je, le, la même façon.
Je dis pas que c'est une mauvaise réponse. Je dis pas que c'est une mauvaise réponse. Si la Gemara répond, c'est une bonne réponse. Mais la question était une question. Quand la Gemara pose une question, c'est qu'il y a une question. La question est une question. La question est une question parce que Rabbanan et Rabbi Yossi Aglili, ils ont parlé autour du même cas. C'est vrai que c'est deux détails autour du même cas. Bon. Alors qu'est-ce qui répond la Gemara? Elle te dit que peut-être que la Braïta suit l'avis de Chachamim pour un cas
et
l'avis de Rabbi Yossi Aglili sur un autre
sur
cas.
Bien oui.
Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais encore une fois,
il n'y
a pas de preuve. C'est un peu tiré par les cheveux. Parce que bon, si tu suis Rabbi Yossi Aglili, tu suis jusqu'au bout. Sur Chachamim, tu suis jusqu'au bout. On va dire qu'il va suivre l'avis de Rabbi Yossi Aglili pour la souffrance de l'animal, que est-ce qu'on a le droit de, est-ce que Minatora c'est interdit de faire souffrir un animal? Selon Rabbi Yossi Aglili, est-ce que faire souffrir un animal c'est interdit de la Torah?
Non.
Et il va suivre l'avis de Rachamim qui dit que je peux demander une
rémunération.
C'est-à-dire qu'il a pris ça, c'est la coule à celui-là, hein, c'est éclaté.
Ben oui.
D'accord.
Oui,
il a dit.
On a pas la preuve du
contraire. Il a dit c'est pas Minatora et quand tu fais un rechargement tu peux demander une rémunération.
Ça m'arrive tout le temps ce genre de truc.
C'est-à-dire qu'il a pris le meilleur des deux côtés. Bon. Donc.
Ça arrive souvent. Hein.
Que quoi?
Que le début, c'est pas lui, la fin.
C'est rare. Là, c'est rare parce que c'est quand même deux détails autour du même cas. C'est pas deux cas distincts. C'est deux détails
autour du même cas. Oui, mais un côté, c'est la bouche, l'autre côté, c'est la queue.
C'est pas.
Attends, comme il a dit là, c'est toi qui voulais dire l'éléphant dans la maison d'aveugle.
Oui.
Voilà. Tu connais cette histoire?
C'est pas. Bon.
Ça, il la connaît pas.
Chacun, il est.
Je la connais pas, je pense. Bon.
Parce qu'il croit que comme il ne la connaît pas, c'est pas la peine qu'il la connaisse.
Ah non, mais je suis sûr que c'est.
Vous la raconterez si vous voulez après le cours de Gemara, mais je pense pas que ce soit assez intéressant pour déranger un cours de Gemara.
Mais c'est Talmudic cette histoire, ça sort de chez nous.
De quoi?
Cette histoire d'éléphant dans une maison d'aveugle.
Oui, c'est vrai.
Bah oui. C'est un raisonnement totalement. Raconte-lui, elle prend 20 secondes.
Ou c'est dans la Gemara? Non, c'est pas dans la Gemara.
Mais si.
C'est le style Gemara peut-être.
C'est complètement. C'est un rabbin qui nous a sorti cette histoire pour imager. Raconte-la.
L'éléphant qui
quoi? Pause.
L'éléphant qui quoi?
Vas-y.
Un éléphant, c'est une troupe qui vient divertir les gens. Ils vont divertir une maison où il y a beaucoup de gens qui sont handicapés, notamment des aveugles. Et puis donc, comme ils peuvent pas voir l'éléphant, parce qu'ils sont aveugles, ils font toucher l'éléphant, tu vois. Donc le cirque s'en va, et puis le professeur dit, alors, comment c'est un éléphant? Alors il dit, ben non, un éléphant c'est une grande trompe. Ah non, c'est pas ça, un éléphant c'est une grosse patte comme ça. Et toi, qu'est-ce que c'est un éléphant? Ben, c'est une petite queue avec des, un gros derrière.
Comme ouais, ça, j'ai compris. Moi, je vois, c'est Steve Moussard l'histoire.
Ouais, ouais. Oui, toi, tu vois, c'est Steve Moussard.
C'est pour Yakov, c'est une petite pique pour Yakov.
Voilà, tu vois. Donc, ça veut dire.
Alors, c'est une énorme oreille.
Tu vois, il va dire, bon, pour moi, la Torah, c'est le 770.
Mais ils ont tous raison.
C'est-à-dire, pour moi, la Torah, c'est
le grand. La Torah, elle a été donnée sur le 770.
Voilà. Tu vois,
non, Jacob, il voit ni l'éléphant ni rien du tout.
Il voit rien, lui. Il sait
c'est
que.
Une bête. Est-ce qu'on peut la faire souffrir d'abord?
Jacob, il voit rien, mais il sait que. L'éléphant a la maison d'aveugle.
Ça, on est tous des aveugles.
Voilà.
Il y en a qui sont bornes, peut-être.
Bon. Toi, t'es bon,
alors,
ça non, alors, pas moi. Me diaboliser.
Donc, la Gemara s'arrête ici. Et donc, la Gemara va conclure. Alors. Donc, du coup, alors, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, du coup, on n'a aucune preuve. Et il n'y aura pas de preuves.
Elle s'arrête là.
Ça s'arrête là.
Elle en arrête. Elle en...
Ah ouais.
Ah oui, ça veut dire quoi ça s'arrête là? Quand on dit que ça s'arrête là, ça veut dire que Rava, au début de la Gemara, il y a 3 semaines, il avait amené une preuve, d'après lui, que faire souffrir un animal, que Chachamim, pardon, lui l'a dit d'après moi, Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai pensent que faire souffrir un animal, c'est sûr de la Torah. Mmh. On a essayé d'amener des preuves contraires, et on a repoussé toutes les preuves contraires. Mmh. Donc, puisqu'on a repoussé les preuves contraires, donc on n'a pas réussi à déstabiliser Rava. Donc, puisqu'on n'a pas réussi à déstabiliser Rava, donc on revient au point de départ. Bon. Rava était dans ce cas-là, ce que j'ai dit, ça tient.
Non, ça tient pas. Donc, on n'a pas de preuves.
Si, parce que Rava avait amené une preuve. Rava a amené une preuve, ce qu'il a dit, mais nous, on a essayé d'amener des preuves pour déstabiliser ce que Rava a dit.
C'est quoi sa preuve, excuse-moi?
Il avait amené une preuve de la Mishnah. Une preuve claire de la
Mishnah. Que c'est pas de la Torah.
Que c'est de la Torah.
Que
c'est de la Torah.
C'était quoi la preuve?
En fait, il n'avait pas amené de preuves, d'accord?
Ah. Rabbi,
ouais. Oui, c'est, ça veut dire comme ça. Nous, on la connaît pas, la preuve qu'il a amené Rava.
Voilà, ah oui, mais lui, d'accord. Il dit qu'il j'ai une preuve.
Mais au Beit HaMidrash, on raconte. Rava, il est plus de ce monde. Sinon, on lui a posé la question. Mais Rava, au Beit HaMidrash, il a dit, d'après moi, Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai pensent que faire souffrir un animal, c'est sûr de la Torah. Alors nous, pour déstabiliser Rava, il faut qu'on amène la preuve du contraire. Maintenant, on ne sait pas c'était quoi la preuve de Rava. On sait qu'au Beit HaMidrash, quand il l'a amené, il avait une preuve. Et mais ben, Rava n'est pas là.
L'âme de Bilam.
Donc pour nous, on n'a pas besoin de que Rava nous explique sa preuve. Pour nous, on fait confiance à Rava. Quand un pharmacien vous donne un médicament, je ne vais pas lui dire pourquoi 2 cuillères, pas 3 cuillères. Il me donne, Rava, c'est Rava. On pose pas de questions. Bon.
Oui, mais a priori, un pharmacien,
moi, il a raison. Moi, Rava, je lui fais confiance. Si Rava il m'a dit, si j'ai appris ça au nom de Rava, je ne vais pas lui demander quelle DAF c'est écrit et quel endroit c'est écrit. Moi, je lui fais confiance à Rava.
Ah non.
D'accord. Sauf que, pour déstabiliser Rava, il faut amener la preuve du contraire. Ça, c'est la logique Gemara. D'accord. Comment ça marche chez les goïms? Chez les goïms, ça marche dès qu'on a un petit élément de preuve sur quelqu'un.
Présomption.
Dès qu'on a une présomption, ça y est, il faut qu'on se mette à parler sur lui et à raconter.
C'est à lui
faire
de prouver
tomber.
Qu'il a.
C'est à lui de prouver que c'est faux ce qu'il a dit.
Horrible. En Amérique, non.
Dans la Torah, ça marche pas comme ça. C'est, on le voit clairement dans la Gemara. Rava, on sait même pas quelle était sa preuve. Juste, on a entendu de source sûre que Rava a dit comme ça au Beit HaMidrash et qu'il avait une preuve. On se rappelle pas de la preuve. Mais on sait de source sûre qu'il a dit ça. Qu'il a dit que Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai pensent que faire souffrir un animal, c'est sur la Torah. On ne connaît pas sa preuve. La seule manière de déstabiliser Rava, enfin pas déstabiliser, mais de chercher à comprendre, c'est d'amener la preuve du contraire. Donc là, si on amène la preuve du contraire, là, ça voudra dire, c'est pas qu'on remet Rava en cause, mais on remet
ses sources.
D'accord ? Les sources qu'on a entendues. On dit peut-être qu'on a mal entendu. Mm-hmm. On a amené 8 preuves. D'accord ? 9 preuves, pardon. 9 preuves, on a essayé d'amener pour essayer de déstabiliser Rava. Déstabiliser Rava et de montrer que ce qu'il a dit, a priori, ne se tenait pas debout. Les 9 preuves, on les a à chaque fois désamorcées. Chaque fois, on a montré, enfin, les 9 bombes, on les a désamorcées. Chaque fois, on a montré que non, peut-être ça parlait d'un cas précis, peut-être ça suivait un certain avis, etc. Donc, du coup, il n'y a aucune preuve contre Rava. Donc, puisqu'il n'y a aucune preuve contre Rava, on revient à ce qu'on a dit au début, que certainement ce que Rava dit, c'est juste. Un, on ne connaît pas la preuve, on fait confiance à Rava. C'est nous, c'est la faute est chez nous, la faute n'est pas chez lui. Si on a la preuve du contraire, là, on va mettre la faute sur le Chacham qui nous a amené, la Shmoua, qui nous a amené l'enseignement, on dit peut-être qu'il a mal répété. Mais tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on suit l'avis de Rava. Et c'est comme ça la halakha.
Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est un goy.
C'est comme ça la halakha que Maïmonide dit.
Maïmonide
dit qu'on suit l'avis de la majorité. On considère qu'il y a des halakhot pour ça. Que faire souffrir un animal, c'est un Gemara Shabbat. Faire souffrir un animal, c'est un sourd de la Torah.
Et que preuve ils amènent?
D'accord.
Il
n'y a pas de preuve. C'est ce qu'on est en train de dire.
C'est tout ça.
Il n'y a pas de preuve. Là-bas, ça veut dire. Là-bas, hein, encore une fois, là-bas, il y a des preuves. On a des preuves de la Torah. Mais ce qu'on voulait chercher ici, c'est. Rava a dit que moi, je pense que Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai pensent comme la vie là-bas qui dit que ça assure de faire souffrir l'animal de la Torah.
Oui.
On ne connaît pas la preuve de Rava. On a essayé d'être de la Mishnah. On a dit que de la Mishnah, on n'arrive pas à voir comment c'est une
pourquoi
preuve.
Pourquoi ce ne serait pas la même preuve qu'il y a dans le côté Shabbat alors?
Non, parce que Rava a dit que de notre Mishnah, on comprend ça.
Ah, de notre Mishnah.
Ah oui. De notre Mishnah, on comprend que Chachamim et Rabbi Shimon d'accord, ouais, pense que faire son émat, c'est sur la Torah. Donc, on a eu plusieurs types de preuves. Tout d'abord, on a essayé de montrer que de notre Mishnah, il n'y a pas de preuves. Mais on a montré à chaque fois que notre Mishnah, on n'arrive pas bien à la comprendre. D'accord. On a essayé d'amener une preuve que... Il faut bien comprendre la structure de ce qu'on a fait. Tout d'abord, on a essayé d'amener une preuve que... Rava a dit comme ça. Rava a dit, notre Mishnah pense que... Rachamim et Rabbi Shimon, de notre Mishnah, on voit clairement qu'ils pensent que ça sort de la Torah. Donc on a essayé d'amener plusieurs preuves. Tout d'abord, les trois premières preuves qu'on a amenées, on a essayé d'amener une preuve de notre Mishnah du contraire de Rava. Mais à chaque fois, on a dit que ça marche pas. Il n'y a pas de preuve. Ensuite, on est parti chercher dans d'autres cas... pour essayer de trouver l'avis de Chachamim. Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a pas trouvé. Mais pour essayer de trouver l'avis de Chachamim ailleurs, et de dire qu'avec ça, ça invaliderait ce que Rava a dit. Mais chaque fois, on n'a pas réussi à trouver. Donc, du coup, on revient à ce que Rava a dit. Que Rava, qui est déjà dans le Olam HaEmet, certainement, il s'est pas trompé. Ah, on connaît pas sa preuve. C'est de notre faute, c'est pas de sa faute. D'accord? On n'a pas eu le mérite de connaître sa preuve. Maintenant, je continue. Tanou Rabbanan. On n'a pas eu le mérite. Qu'est-ce qu'il y a?
Même pas.
Même pas quoi?
Même pas égoïste, même pas égoïste.
J'ai pas compris.
Même pas égoïste.
Et c'est Baba Métia qui en parle en premier. Il y a pas, à part et Shabbat, il y a pas
une autre source. On peut pas prendre la chassidoute sans le rabbi.
Il y a pas une autre source.
C'est une parenthèse. C'est une parenthèse.
On n'a pas une autre source. On n'a que Baba Métia ou traité Shabbat.
Il y a deux sources. Ouais. Non, parce qu'il dit que... Deux sources principales. Après, il y a peut-être deux endroits où on en parle rapidement, mais la grande sugya, c'est-à-dire le grand sujet de... Il y a des sugyot, vous savez, dans la Gemara, il y a des... On sait pas, un plaid de filine, on en parle dans Menachot, la Mezouza, il y a des sujets. Le sujet, les deux endroits où on parle de ce sujet, c'est dans la Gemara, Métia ici, c'est dans la Gemara Shabbat, page 126,
je crois. Qu'est-ce que dit le rabbi alors là-dessus?
Sur quoi?
Sur le fait qu'on n'a pas trouvé de preuve et que... Qu'est-ce qu'il dit? On fait confiance à Rava, comment il voit les choses? Il a fait des commentaires sur la
Gemara. Le rabbi,
il
dit ce que la Gemara dit.
Ça veut dire que la preuve, elle existe.
C'est-à-dire que Rava, c'est sûr qu'on avait une preuve. Rava n'a pas inventé. C'est intéressant, parce que la Gemara, elle raconte, c'est pas sur Rav, c'est pas sur Rava, mais sur Rav.
On n'arrive pas à trouver.
Elle raconte qu'une fois, Rav a dit un enseignement au Beit HaMidrash. D'accord? Et tout le monde lui a sauté dessus quand il a dit cet enseignement, ils lui ont posé des questions. La Gemara amène les questions qu'ils lui ont posées. Ils lui ont posé des questions, dans tous les sens, et ils ont déstabilisé ce que Rav a dit. Maintenant, Rav était de ce monde, pas Rava, hein, Rav. Et la Gemara, la belle raconte, a dit que Rav a dit, quand même, la halakha est comme moi. Mais tiens pas ce que j'ai dit. Il a dit parce que avec les yeux de mon cerveau, je vois comme ça. Comme ça, il a répondu. Avec Mara, elle zabe. Il dit bon, elle est à l'achat comme Rav. Et à l'achat, jusqu'aujourd'hui, elle est comme Rav. Avec Mara Shabbat, c'est curieux. Ou Rav. Ah, c'est pourquoi je vous amène cet exemple-là. Pour vous dire que c'est possible que si Rav il serait là, il aurait dit ah ouais, c'est pas mal, vous avez trouvé des preuves que moi, j'ai même pas pensé. Mais comme moi, je suis Ravenu avec. Rabbi Akiva, d'accord. Mais nous, on sait que si Rava il a dit, c'est qu'il avait pu voir Kodesh. Je suis sûr qu'il s'est pas trompé. La seule preuve qu'on aurait contre lui, c'est si on a une preuve du contraire. Que là, on aurait dit que peut-être la Shemua est pas bonne. Peut-être que celui qui nous a ramené est pas bon. Puisque je parle de Rav, on dit que lorsque Shmuel et Niftar, vous savez que Rav et Shmuel, ils sont très souvent marloquets dans la Gemara. La Gemara, elle raconte que Rav et Shmuel étaient très souvent marloquettes, des fois des marloquettes très virulentes, dans la Torah, bien sûr, comme on a vu partout.
Qui va me contrer?
Comme on l'a vu partout. Il y avait l'école de Rav et l'école de Shmuel, comme on a un peu aujourd'hui. Et là-bas, la Gemara, elle raconte, elle dit que c'est quand Rav et Niftar, Shmuel a déchiré, c'est écrit qu'il a déchiré 16 vêtements. Il avait des vêtements sur lui, il a déchiré 16 vêtements. Pourquoi il a déchiré 16 vêtements? Il a dit, la seule personne duquel j'avais peur des questions, c'était lui. Et maintenant qu'il est niftar, j'ai peur des questions de personne. En d'autres termes, ça veut dire que...
Qui va me contrer maintenant.
Voilà, qui va me contrer. Il voulait qu'on le contre.
Quel rapport avec les 16 vêtements?
Non, ça veut dire, on dit que quand on fait un velout, normalement, on doit faire un vêtement.
Oui.
D'accord? Et lui, on dit qu'il
c'était
a...
C'était grave pour lui.
C'était grave pour lui.
Pourquoi 16?
D'accord? Pour ça, c'est écrit 16 vêtements, pour dire qu'il a fait tous les vêtements. Il a déchiré tous les vêtements jusqu'à son...
Il en avait 16 sur lui.
Il en avait 16. Il a déchiré tous les vêtements qu'il avait jusqu'à son corps.
Tu ne vas pas poser la question pourquoi 16, si je suis étonné de toi.
Non, il avait 16 vêtements. Ça.
Et tu veux qu'on fasse une...
Certainement que lui, il avait sa raison.
C'était en hiver.
Il y a un rame en Israël alors d'aujourd'hui qui porte 101 talits de katane sur lui, c'est ça?
Ouais. Bon.
Il y a une raison comme ça, je pensais que...
La Gemara ne dit pas. Maintenant, on peut inventer après. Mais
il y a
bien
le film de Walt Disney, c'est un Dalmatien. Je trouve ça curieux quand même.
Non, continue la Gemara. Non, c'est possible.
Après, c'est un gadol, non?
Pourquoi pas 16 et pas 101?
Oui, c'est ça la question que je te pose.
Et mais 16 vêtements, c'est tout.
Non, pour chaque fois qu'il se lave, il met une heure.
Non, 101, on sait pourquoi.
Va se déshabiller, se rhabiller.
Parce qu'il ne peut pas enlever.
Combien de vêtements nous on a?
On a 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4. Attendez.
Moi j'ai sur moi, j'ai mon petit
catalogue. On peut arriver à 6, 7, sans problème.
Avec une veste, ça fait 4.
Avec une veste.
Avec un par-dessus, ça fait 5.
Voilà, un par-dessus, allez. Exactement. Avec un pull, tu peux avoir aussi. On peut avoir plein de vêtements, c'est possible. C'est pas. Bon. Peut-être c'était les vêtements de l'époque, apparemment. En tout cas, avec Brady, 16 vêtements, comme ça dit, clairement. Il a déchiré 16 vêtements. Bon, quoi qu'il en soit, Tanou Rabanan, Rami m'a enseigné. C'est quand Rami m'a enseigné la chose suivante. Ben, on est où, on s'est arrêté. Tanou Rabanan, Rami m'a enseigné.
Tornata. Tournez. 33-2.
Voilà. Tanou Rabanan, Rami m'a enseigné dans une braille tête, enseigné la chose suivante. Donc là, on va parler d'une autre halakha. Ce qui concerne la mitzvah d'aider à charger et décharger. Le Rami m'a enseigné, c'est écrit « qui tire et ». C'est un détail qu'on n'a pas encore développé. C'est écrit « lorsque tu verras l'âne de ton ennemi en train de crouler sous sa charge ». Donc vous avez vu comment on a décortiqué chaque mot. On a dit « ton ennemi », c'est qui ton ennemi? C'est même un ennemi qui est goy. « Crouler », ça veut dire que c'est exceptionnel. « Sous sa charge », ça veut dire que c'est en dessous. « Sa charge », ça veut dire que c'est la charge habituelle. On a décortiqué chaque mot. Il y a un mot qu'on n'a pas encore décortiqué, c'est « qui tire et », lorsque tu verras.
Si t'es non-voyant, tu voilà. es...
C'est quoi « lorsque tu verras » Ça veut dire que « pas vu, pas pris » C'est quoi « lorsque tu verras »
Si tu entends parler, « il y a la charge d'une lame qui est en train de... »
Il y a un jeu où on dit « pas vu, pas pris », non? C'est quoi le jeu où on dit « pas vu, pas pris »
Je le connais pas, celui-là.
Il y a un jeu, je crois. Enfin, pas vu, pas pris.
C'est un dicton.
D'accord. Donc on dit « qui tire et », c'est écrit « qui tire et » lorsque tu verras. Donc lorsque tu verras l'âne de ton ennemi en train de crouler sous sa charge. Du fait que c'est écrit « lorsque tu verras »,« yachol afilou merachok », on n'a pas dit « lorsque tu rencontreras », parce que rencontrer, c'est déjà plus proche. Lorsque je rencontre quelqu'un, ça veut dire que je me suis approché, je suis passé à côté. Mais voir, je peux voir de très loin. Il peut voir de très très loin, il peut passer incognito, comme si de rien n'était. Donc, puisque c'est écrit « lorsque tu verras », qu'est-ce que j'aurais pu penser ?« Yachol afilou merachok », j'aurais pu penser que même si je vois de loin, que puisque j'ai vu, même si je ne l'ai pas rencontré, j'ai l'obligation
de l'aider.
Talmud Lomar, c'est ça ce qui vient t'apprendre un autre verset qui parle de la mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre une perte, qui dit « qui tivga ». C'est quoi ce verset? D'accord. Alors, prenez Torah Or HaShalem, allez monsieur, rapidement. Torah Or HaShalem, gauche de la page, « qui tivga », Pasuk Gimel. D'accord. Pasuk Gimel, qu'est-ce qu'il dit? « Qui tivga, shor oifra, lorsque tu rencontreras le taureau de ton ennemi, Ochamoro, ou son âne Tanhe, qui est en train donc de se tromper, ça veut dire, enfin, il s'est perdu dans la route, achève tes chivenoulo, tu devras lui ramener. » Ça, c'est la mitzvah de Hashavat Aveda. Rendre une trouvaille. D'accord? La mitzvah de Hashavat Aveda. Là, c'est quoi la grande différence qu'on remarque avec notre verset? C'est que là, on ne parle plus de voir un âne, mais on parle de rencontrer. C'est quoi la différence entre voir et rencontrer?
La distance.
C'est la distance. Quand je rencontre quelqu'un, ça veut dire que je suis passé pas loin de lui. Quand je vois quelqu'un, je peux le voir de très loin. Ça dépend de ma vue. Oui. Donc, il nous dit ici, j'aurais pu penser, puisque quand le verset il nous a dit, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi en train de crouler sous sa charge, j'aurais pu penser que même si je le vois de loin, je dois l'aider. C'est pour ça que le verset vient t'apprendre un verset, aucun rapport, qui parle de Hashavat Aveda, de rendre une perte, et qui te dit, lorsque tu rencontreras l'âne de ton ennemi, qui s'est perdu, donc qui est perdu, tu devras le ramener à son propriétaire. Donc là, on voit bien la différence. Et alors, ikitivga, donc ça veut dire quoi? De là, on apprend quoi? De là, on apprend ici que l'Agmara, ça c'est l'Agmara qui explique, les Mefarshim qui expliquent, ils expliquent que la mitzvah d'aider à décharger, en vérité, on l'apprend, c'est une toulda, d'accord, c'est un dérivé, d'accord. La mitzvah d'aider à décharger son animal, c'est un dérivé de Hashavat Aveda. Parce que Hashavat Aveda, c'est pas seulement rendre une perte, mais c'est aussi empêcher quelqu'un de perdre de l'argent. Donc quand j'ai l'animal qui est en train de crouler sous sa charge, c'est aussi empêcher le propriétaire de perdre de l'argent. Donc le Mefarshim explique que aider l'animal à décharger, c'est un dérivé de la mitzvah de Hashavat Aveda. Donc, puisque chez la mère, chez le père, Hashavat Aveda, qu'est-ce que tu m'as dit? que la mitzvah est uniquement lorsque on a rencontré, mais si je vois de loin, j'ai pas de mitzvah. Alors, dans ce cas-là, je comprends que pour aider, dans le cas de l'animal qui croule sous sa charge, dans quel cas j'ai l'obligation de l'aider uniquement si je le rencontre, mais pas si je le vois. Là, dans ce cas-là, quelles questions vous allez me poser? Je répète.
Je répète.
Il y a deux mitzvot. D'accord? Il y a la mitzvah principale qui est de je dois tout faire pour que mon ami ne perde pas d'argent. Cette mitzvah a plusieurs dérivés. D'accord? Plusieurs dérivés de cette mitzvah. Un des dérivés de la mitzvah, par exemple, c'est de ramener à la trouvaille son propriétaire. Un autre dérivé de la mitzvah, c'est quoi? On va conclure avec ça. Un autre dérivé de la mitzvah.
C'est l'idée de décharger.
C'est bon.
C'est décharger.
Il va écouter un petit peu le. C'est un ami à moi.
Ah.
David Gage.
J'ai du mal à me garer là, je suis sur les voisins.
Ah ouais.
Je suis
pas...
Un autre dérivé de la mitzvah, c'est quoi? C'est d'aider l'animal à décharger. Ça, c'est un autre dérivé de la mitzvah. Très bien. Maintenant, on te dit la chose suivante. On te dit. Le verset qui parle d'aider l'animal à décharger, il a dit lorsque tu verras. D'accord? Un âne en train de courir sous sa charge.
Oui.
D'accord? Donc, voir, ça veut dire même de loin. Très bien. Mais si on voit le verset du père de cette mitzvah, qui est la mitzvah de ramener la trouvaille, donc d'empêcher quelqu'un de perdre de l'argent, là-bas, on ne parle pas de voir, on parle de rencontrer. Donc, de là, la Gemara te dit, de là, on comprend que la mitzvah d'aider quelqu'un à décharger son animal, c'est uniquement si je l'ai rencontré. Mais si je le vois de loin, je n'ai pas la mitzvah de le déplacer. Alors, dans ce cas-là, la Gemara pose la question, elle dit, mais dans ce cas-là, pourquoi le verset a dit lorsque tu verras? Si tu me dis que de toutes les façons, c'est lorsque je vais rencontrer. C'est tordu. Donc la Gemara dit ikitivga yachob gamamash. Pourquoi la Torah m'a dit lorsque tu verras et pas lorsque tu rencontreras? Parce que si elle avait dit lorsque tu rencontreras uniquement, j'aurais pu penser gamamash. C'est que c'est seulement si je suis vraiment à côté. Vraiment, mais je suis passé juste à côté, je l'ai presque touché.
Ah oui, c'était un long vu.
Talmud Lomar qui tire et. C'est pour ça que la Torah t'a dit les deux termes. T'as dit lorsque tu verras et lorsque tu rencontreras. Pour te dire quoi? C'est une logique classique Mara. Vezoi. Reiya Shiyeshbab Gia. C'est une vue, d'accord, qui ressemble à rencontrer. Ça veut dire que si on t'avait dit uniquement le terme rencontrer, j'aurais pu penser qu'il faut vraiment que je passe à un mètre à côté.
C'est ton œil qui l'a rencontré.
Il faut que mon œil le rencontre. Mais d'un autre côté, si j'ai pris des jumelles et j'ai vu, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit une vue qui s'appelle rencontrer. Alors, c'est quoi la mesure? Il faut bien donner une mesure. Vezoi, donc Vezoi, c'est quoi cette mesure? La Reiya chez Eshbab Gia, c'est quoi cette mesure? Donc, c'est quoi cette mesure d'une vue qui correspond à une rencontre? Shiaru Chamim, Echad, Mishiva, Vechetzab, Mil.
D'accord?
Que c'est un, d'accord? D'accord, donc Echad, Mishiva, ou Mechetzab, Mil. Ça veut dire qu'on prend un mille, d'accord? Un mille, on va le découper. Donc, le 1000, c'est à peu près 2000 coudées. D'accord? Le 1000, c'est à peu près 2000 coudées. 2000 coudées, ça veut dire à peu près 1 km. Donc vous prenez 1 km, vous le divisez en 7,5.
Tu le divises par 4, en fait. Par 5.
Non. Tu le divises en 7,5. D'accord? Et tu prends un morceau.
250 mètres.
Ouais. Ah non, c'est moins que 250 mètres.
Ouais, un peu moins.
Beaucoup moins.
Ça fait 150 mètres.
C'est moins d'un
tiers. Ça fait combien?
150 et 200 mètres.
Combien?
Un quart.
C'est moins d'un quart encore.
Oui, entre 150 et 200 mètres.
Un quart, c'est divisé par
4. C'est marqué là.
C'est déjà pas mal.
Tu prends... C'est beaucoup moins qu'un quart. C'est entre 150 environ.
150 mètres.
Ah, 2/15 d'un mille.
Attendez.
C'est-à-dire un trentième. C'est-à-dire un tiers, presque.
Mishiva, 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 Vezeu, Shiur, Anikra, Ris.
300-350 mètres.
D'accord.
Allez, c'est bon.
Et ça, c'est le Shiur qui est appelé... Donc je vais vous donner la mesure, d'accord? Donc Echad Mishiva Omechetsa Bemil Vezeu Anikra Ris. Ça veut dire comme ça. Vous allez prendre un mille. On a dit un mille, c'est combien de coudées? Un mille, c'est 2000 coudées. Ça veut dire à peu près 1 km. D'accord? Si vous allez le séparer en 7,5, il y aura combien à peu près? Ici, il me donne la mesure. Ça va me donner dans Maïmonide. Il y aura Yibiyadra Mataim Shishim Veshesh Ama ou Shle Shle Shama. Tu vas retrouver 266, d'accord? Et 2 tiers de Ama. Ça, c'est le RIS. D'accord?
Bon, c'est ça. Entre 250 et 300 mètres. C'est la vue normale de quelqu'un qui peut voir quelque chose de loin. Et après, là, il dit pas plus.
C'est pour ça que alors, ça sert
là, à je vous expliquais comme Maïmonide.
Ça, il me dit tu rencontres. Parce que si c'est la mesure, non, ça suffit avec tu vois.
150 mètres.
Tu vois pas plus loin.
Il a donné une mesure en mètres ici? Ils ont pas donné une mesure en mètres.
Regarde.
Ils ont donné une mesure.
T'es ici à l'angle de rue et tu arrives à voir Eden.
Ils ont donné une mesure en mètres.
Oui, ici, ils ont donné une mesure.
Ici. En hamot ou en mètres?
Non, parce que tu fais la conversion. Ils te disent les 2/15 d'un mille et ils te disent combien fait un mille.
Ah, lui, il a dit 2/15. Ça, c'est comme le ritba. Le ritba, il dit comme
ça. Il te dit un mille équivaut à 2000 hamot, ce qui représente 900 à 1200 mètres. Et tu prends les 2/15 de ces deux. Donc.
Ouais, il a dit 2/15. Ouais, c'est comme le ritba, ça, oui.
1/15, c'est combien?
Ah oui, bon,
tu divises par 100, mais tu multiplies par 15. Ouais, donc, si ça fait 1 km, 1000 mètres, tu as 150 mètres.
Pourquoi il a dit 2/15e?
Deux fois.
Pourquoi il a dit 2/15e au lieu de 1 sur 7/5?
Enfin, les 2/15e d'un 1000. Un 1000, c'est 1000 mètres,
oui,
environ.
2/15e ou 1 de 7/5, c'est la même chose.
C'est pareil.
Oui. Tu arrives entre 250 et
le ritba, il fait calcul comme ça. Le ritba, il fait calcul de
2/15. Bon, on ne va pas l'attaquer, le gars, parce qu'il a dit « Ah, je ne vois pas,
ça il y a fait 150 mètres. Ça fait à peu près 150 mètres.
Non, 250
mètres. Ah non, 250 mètres,
oui,
c'est...
Oui, mais il a 2.
Non, mais 2 de 15.
Eh ben oui, deux fois cette vous quantité.
Vous divisez 1 km en 15.
Et tu multiplies par 2.
Et je multiplie par 2. Ça donc diviser 1 km en 15, ça fait combien?
Ah, t'as raison, ça fait 70.
Ça fait 150 mètres à peu près. C'est pas grand-chose.
Il a dit un 15e.
Non, 2/15. La Gemara a dit 1 de 7,5. Pour simplifier, ils ont dû dire, c'est comme le ritba. Le ritba fait quelque chose comme ça aussi. Le ritba, il dit 2/15. C'est la même chose. C'est la même chose, monsieur Bissuit. 2/15 et 1 de 7,5, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que c'est 150 mètres. C'est pas grand-chose. Ça veut dire il ne faut pas que je passe juste à côté. Donc pourquoi on a dit les deux termes Kitir et Kitivga, lorsque tu verras, lorsque tu rencontreras, c'est un peu contradictoire. C'est pour te dire non. C'est lorsque tu verras, mais d'une manière qui est considérée comme si tu as rencontré. C'est-à-dire, à partir de 150 mètres, on considère que j'ai rencontré la personne. D'accord ? Et en passant, c'est aussi la mitzvah quand on raccompagne quelqu'un.
Saluer.
D'accord ? Pour saluer. Alors, il y a des qui écrivent que quand c'est un grand Talmid Chacham, il faut le raccompagner jusqu'à ce que ses yeux ne voient plus. Mais quand c'est un invité, il y a cette mesure-là. Jusqu'à ce qu'on considère qu'il n'est plus à ma portée. 150 mètres, ça veut dire qu'il n'est plus à ma portée, il est déjà loin. Donc c'est 150 mètres.
Il est dans l'ascenseur depuis longtemps.
Je vois l'âne de mon ennemi, comme c'est écrit, en train de crouler sous sa charge. D'accord ? Si c'est moins de 150 mètres, il ne faut pas reculer. Hein, attention, c'est quand je l'ai vu. Hein. Tana, c'est enseigné, ça c'est un premier point. Je finis avec ça. Tana s'est enseigné. Un autre dîne dans la Braïta. Oumed Dadé, l'homme qui aime, donc l'homme pardon, qui aide. Donc l'homme qui aide le propriétaire de l'animal donc à marcher ou met dadé ad parsa, d'accord?
Alors,
ça c'est encore un autre cas. Bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de bien développer. On verra dans la suite peut-être.
4000.
C'est que quand j'aide quelqu'un, à rechercher son animal, je me dis que si l'animal est tombé une première fois, c'est qu'il va tomber une deuxième fois.
Bah oui.
Donc dans ce cas-là, je dois l'accompagner, d'accord? Met dadé, ça veut dire je l'accompagne, je vais trotter derrière lui. Ad parsa. Alors une parsa, c'est à peu près. Une parsa, c'est 4000. D'accord ? Donc 4000, ça veut dire un peu plus de 2 km. Ah oui ? Je l'accompagne 2 km. Qui a dit que c'était facile, les mitzvot ? Maintenant, sur ça, Amar Rabba Bachana, Venotel Sachar. Rabba Bachana, il change tout. Il dit attention. Il dit même si je vais l'aider à décharger gratuitement, il n'y a pas de problème. Même après un deuxième avis, je vais l'aider à recharger gratuitement. Si on suit la verbiose avec lui, pas de problème. Mais par contre, pour la marche de 2 km, j'ai le droit
c'est
de demander.
T'as le droit de demander quoi ?
C'est 4 km.
Non, c'est pas 4 km.
Ah ben voilà.
Arba Milin.
Une parsa vaut 4000.
Oui, pardon, oui, c'est vrai, oui, il a raison. Arba Milin, ça veut dire 4 km, oui, c'est vrai.
Eh oui.
Parce qu'un 1000, c'est. Vous avez raison.
Pourquoi
1000, c'est 2000 à mode.
Ça veut dire 4 km.
Il a raison. 1000, c'est. Non, Arba Milin.
4 km, je ne comprends pas.
Bah parce qu'ici, il te donne des
cotes. Le propriétaire, il est à 10 km.
1000, non, moi, ça veut dire. Jusqu'à il a raison, c'est 4 km. Parce que 1000, c'est, je vais dire, 1000, c'est de 2000 à mode, donc 2000 à mode, c'est 1 km.
D'accord, 4 km. Alors, c'est
pourquoi 4 km? Parce que c'est pour m'assurer qu'il ne va pas retomber.
Mais. Et après?
Eh bien, après, une fois qu'il n'est pas tombé dans 4 km, on considère qu'il ne va pas retomber.
Allez, rentre chez toi, allez,
mais attends, et qui le mène là après?
Ah, c'est. Mais je suis avec le propriétaire.
T'es avec le propriétaire.
Je continue, je l'aide. Par contre, Rabbi Bachan nous apprend, il nous dit que sur ça, je peux demander une rémunération.
Bien sûr.
Excuse-moi.
J'ai perdu une heure, aller-retour.
Je vois pas la preuve.
Il n'y a pas de preuve.
Non, mais je vois pas le raisonnement. Parce que si un animal, tu l'accompagnes pendant 4 km.
Oui.
Je vois pas pourquoi il tomberait pas après 4 km.
Parce qu'on te dit que nous, on
au contraire. Plus le temps
s'il a fait 4 km, non. Ça veut dire qu'il pourra faire son boulot. Ça.
C'est pas sûr.
Si.
C'est pas sûr.
Bah, si. Ça veut dire, oui. S'il a fait.
T'as un poids qui est très lourd. Tu
Nous, on considère.
C'est une question.
Nous, on considère que On veut savoir, est-ce que c'était exceptionnel que l'animal a croulé sous sa charge, parce que par exemple, il a glissé ou glissé, oui. Ou bien est-ce que c'est un animal qui est fait pour ça? Donc là, apparemment, on a un animal qui est fait pour ça.
C'est pas
d'accord
évident.
Si, oui, d'accord. On sait que c'est bon, on connaît. De la manière, nous, aujourd'hui, on connaît en voiture, à l'époque, d'accord. On connaissait en animaux. Il te dit, un animal comme ça, il porte 200 kilos. Là, t'as trop mis. D'accord. Maintenant, il a pas trop mis, il a mis la bonne charge, mais il est tombé. Donc on va considérer que peut-être il a glissé, peut-être qu'il a eu. Bon, il a pas regardé, il est tombé. Très bien. Mais si tu l'as accompagné pendant 4 km et que tu as vu qu'il n'est pas retombé, ben ça veut dire que c'était un cas exceptionnel et que maintenant il a repris sa course et qu'il va avancer. C'est logique. Oui. Mais par contre, sur cet accompagnement de 4 km, je peux demander une rémunération. Ça veut dire que le propriétaire peut me dire écoute, je ne vais pas te payer, je vais me débrouiller. S'il tombe dans 4 km, j'aurai quelqu'un d'autre qui va m'aider.
D'accord. Parce que ça prend du temps dans le désert, 4 km. Hein.
Quel désert? Qu'est-ce qui se passe à Canal dans le désert? C'est des routes, ça, normal.
Des routes.
Des chemins.
C'est le désert, les routes.
Pas du tout. Ouais. Ce sont des chemins.
Qui a dit que c'est le désert?
Attends, quand tu prends en route, tu vas jusqu'à Ashdod, tu vois déjà les dunes de sable, mettez-les en milieu du goudron,
etc. Mais c'est une route, elle est fréquentée.
Il y a 20 ans, c'était le désert.
Il y a des voitures.
Oh, le village, parce que.
Non, mais c'est des villages avec des pierres, des trucs, des crevasses.
C'est vrai, 4 km, c'est beaucoup.
Évident. Et si ça grimpe, si tu t'en gagnes les.
Désert du Nevada.
Si ça grimpe comme ça.
Et si ça descend?
Et si ça descend?
Il va glisser.
Il va glisser. C'est pas évident.
Cherche les problèmes, lui.
4 km, hein, c'est énorme.
Imagine-toi, c'est une pendrette, il risque de glisser. Moins que 4 km. Alors, comment on fait? Comment on calcule?
Quand tu vas à Méron,
c'est peut-être l'âne de Shrek qui est un âne très feignant. Qui pense à rien du tout.
C'est pas évident. Hein.
En tout cas, on peut demander une rémunération. C'est ce que Rava va nous apprendre. Et puisqu'on peut demander une rémunération, c'est pour ça que, bon, dans les faits, le propriétaire, il peut dire, écoutez, monsieur, ne m'aidez pas à marcher avec mon animal, je vais me débrouiller, et s'il va tomber, je redemanderai de l'aide à quelqu'un. Mais si vraiment il veut, il peut imposer à ce qu'on marche avec lui, et on doit marcher avec lui.
Non, mais si il est d'accord avec ton prix.
À quoi?
Si il est d'accord avec le prix.
Ah oui, c'est mon prix, bien sûr.
C'est ton prix à toi.
Ah oui, bien sûr. C'est mon prix, le prix de, je dis, voilà, monsieur, moi, je, une heure chez moi.
Une heure, et puis le retour, ça se trouve, il va pas vers chez toi.
Non, tu peux lui dire aussi, attention, parce qu'après il y a d'autres facteurs.
Là-bas, ça me dérange.
Il y a d'autres facteurs après. C'est qu'après il peut dire, il fait presque nuit, donc je vais vous accompagner, mais après je pourrais pas rentrer chez moi. Voilà, il y a l'hôtel, ouais. D'accord.
Il y a le repas.
Il y a l'hôtel, il y a le shalom bayit, il y a le repas. Il y a
shalom bayit.
Tu veux pas que j'achète ton âne plutôt? Ça te revient moins cher.
Voilà, ça reste ici.
Allez, c'est bien.